Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Le pouvoir coutumier, comment l'acquiert-on et comment est-il exercé dans les sociétés traditionnelles en RDC? Ces questions sont au centre du magazine Identité culturelle que je vous propose aujourd'hui. Et nous recevons comme invité principal le Mwami Godefoy Munongo Kaneranera, l'actuel roi des Bayeke dans l'ex-Katanga. Il est en même temps président de l'autorité coutumière en RDC. Au cours de ce magazine culturel, nous aurons des témoignages sur l'acquisition et l'exercice du pouvoir chez les Mongos, chez les Koussous et chez les Nandés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme qui vous plonge dans votre identité culturelle. Je suis Denise Mayomwasi Kisimba, à la prise de son, Pierre Diassinos. Avant de vous plonger dans ce magazine culturel, voici un extrait du titre « Chambuluma » de l'artiste Dekamukulu qui nous chante dans sa langue Sanga, une des langues du Katanga. Vous écoutez Radio Okapi, c'est le magazine Identité culturelle. Les communautés coutumières sont gérées, chacune, par une autorité selon les degrés. Il y a des grands chefs appelés Mwami, Moulopwe, etc. Ils portent plusieurs noms selon les tribus. Et puis, il y a des chefs des groupements, des villages, des localités, etc. Mais comment devient-on chef dans une société coutumière? Comme annoncé, nous recevons d'abord le Mwami Godefoy Munongo, le roi des Bayeke. Grand chef Godefoy Munongo, bonjour.
Bonjour, maman.
Je vais commencer par chez vous, dans le royaume Yeke. Comment on acquiert le pouvoir chez vous?
Eh bien, très simple. Le système de chez nous est un système basé sur la méritocratie. Et ça se suit par ordre patrilinéaire. Soit le frère, soit un des fils, hein, du Mwami, peut succéder. Et voilà comment on acquiert le pouvoir. Et à ce moment-là, c'est décidé dans le, si on peut dire, le clan, dans la famille Chefal. Et à ce moment-là, quand on a désigné celui qui va nous représenter, et on le présente à la population, et on lui donne le Nkome de Moussiri, c'est le sceptre de Moussiri, la couronne, etc. Et il devient le Mwami. C'est comme ça chez nous.
Oui, mais quand on décide, quand le clan décide comme ça, est-ce qu'il y a plusieurs candidats? Est-ce que c'est automatiquement le père qui décide, on dit c'est son fils?
Oh non, pas du tout. Il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de branches. Quiconque est descendant direct du fondateur Moussiri peut, tant que l'imtoto moinon, mais comme on dit en Swahili, donc le patriarcat, peut briguer. Mais maintenant, il y a les critères, il y a les interdits, il y a les principes que les vieux suivent de très près pour dire que celui-là mérite ou celui-là ne mérite pas.
Alors, je vais d'abord rester dans le royaume Yeke. On vous a désigné chef, on vous a présenté au peuple. Comment vous l'exercez? Comment c'est organisé?
C'était il y a 20 ans, je venais de Boston, Massachusetts, où je faisais mes études aux États-Unis, voulant commencer des affaires avant d'aller à Citibank Tokyo, au Japon. On a perdu notre frère aîné, le Moïse Moussir et Christian. Et alors, on organisait pendant le deuil des notables déjà cogités. Ils ont des réseaux à eux, hein, ils se connaissent entre eux. Ils cogitaient déjà. Ils ont vu ma mère en coulisses. Elle n'était pas chaude. J'étais pas encore marié, je venais des études. Elle voulait que je reparte pour finir le programme que mon père avait signé, m'avait assigné, entre guillemets. Mais les notables ont dit non. Vous êtes une épouse qui a été dotée légalement, les enfants appartiennent au Bayeke et nous on a besoin de lui, l'Américain va rester comme Mouami. Voilà comment je suis devenu Mouami. Et on exerce coutumièrement, on a été préparé. Chaque vacances, on revenait auprès de nos pères, nos oncles. On tapait les tambours, on allait faire la chasse et on mangeait la viande boucanée. Mais aussi on a appris le côté, la formation qu'on a eue à l'extérieur. Alors on combine les deux.
Justement, chaque fois que vous revenez à Bunkeya, grand chef, je crois que c'est en décembre, je crois, que vous venez commémorer la mort d'Omsiri. Il y a des cérémonies coutumières qui sont organisées. Souvent, je me pose la question, comment vous vous sentez dans ces peaux de chef avec tout ce qu'il y a comme cérémonie tout autour, mais aussi avec votre vie
De sénateur,
je vais dire même de citadin, si vous permettez.
Oui. Non, c'est très simple. Oui. On a été formés pour servir, d'une manière ou d'une autre. Et le 20 décembre, c'est le jour que notre ancêtre a été tué par les émissaires de Léopold II, afin d'avoir le Katanga, que lui appelait, qui s'appelait le Ngalengans à l'époque. Et bien à ce moment-là, nous devenons le Moussiri. On redevient le Moussiri. Tout ce qu'il mettait, la tenue et la cérémonie, pour nous, c'est plus qu'un privilège, c'est vraiment un honneur. Mais cela n'empêche rien à notre vie de citadin, entre guillemets, parce qu'on est avant tout chef coutumier, on traite tout de façon coutumière, et surtout la constitution actuelle, maman, et la loi nous défend énormément, nous des coutumiers, énormément. Et d'ailleurs, avec tous les droits et les redevances que nous avons, maintenant on peut se développer réellement à la base. Ce n'est plus une théorie, ce n'est plus des promesses, c'est vraiment à la base que tout va partir.
Alors, est-ce qu'au niveau du chef coutumier, il y a ce que je peux dire comme une forme de gouvernement? Vous avez des notables, vous avez des gens qu'on pourrait dire des ministres. Comment ça s'organise?
Exactement. Dans la loi, nous avons droit à des échevins, 3 échevins, et il y a le conseil de chefferie. Mais dans l'aspect pratique, on a un secrétaire de chefferie, un receveur comptable, et il joue le rôle des échevins, donc des ministres locaux. Et il y a le conseil des notables qui joue le rôle de nos députés locaux. Vraiment, c'est une petite... c'est la décentralisation à 3 niveaux. Kinshasa, la province et l'ETD. Nous sommes vraiment très privilégiés.
Le Mouami Godefoy Mounongo, nous allons le retrouver un peu plus tard. Dans la culture Nandé au Nord Kivu, la transmission du pouvoir s'est faite de père en fils. Comme l'explique M. Tipasa Wabangai Denis, de la famille royale de Batangi.
Je m'appelle Tipasa Wabangai Denis. Je suis originaire de la collectivité de Batangi, groupement Moussindi, village d'origine Bunyantenge.
Monsieur Denis, merci d'avoir accepté de participer à notre émission Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous parlons aujourd'hui de l'acquisition et l'exercice du pouvoir dans nos coutumes. Est-ce que vous pouvez nous dire chez vous, si j'ai bien compris, vous êtes un Mounande, est-ce que c'est comme ça?
Oui, je suis un Mounande, de père et de mère.
Merci. Comment on acquiert le pouvoir chez les Banande dans notre société traditionnelle? Comment on devient chef?
Bon, c'est par héritage. Donc, quand le roi meurt, son fils doit nécessairement lui succéder. Il y aura quelqu'un qu'on appelle Emoula, qui viendra arracher jusque-là le mâchoire du Mouami, et par après, il doit partir avec pour ne plus se voir. Et par après, dès qu'on va introduire, on va commencer la cérémonie d'introduire son fils, donc l'héritier, c'est le Moulala qui viendra avec le mâchoire du Mouami pour être revesti, pour devenir le Mouami une fois de plus.
Voilà. Le Mouami peut avoir plusieurs enfants. Comment on fait pour désigner son héritier?
Oui, bien sûr, le Mouami a plusieurs enfants, mais il y a une femme qui vient de la famille des oncles du Mouami. Donc, un vrai Mouami doit nécessairement épouser la fille de son oncle. C'est pourquoi chez nous, on parle ceci. Permettez-moi de dire ça en swahili.
Oui.
Comme je suis de l'Est. Mwenye hana mujomba haezi kula wami. C'est puisque c'est le mujomba là, c'est l'oncle qui vient avec sa fille pour la faire au mwami. Et c'est cette femme là qui va subir toutes les cérémonies possibles, qui sera introduite, qui sera intronisée, et ce jour-là, et les premières relations qu'on va avoir avec le mwami, c'est là où va sortir encore le mwami qui va succéder à son père. Toute la vie, le mwami ne peut plus voir. Donc la reine, là, la reine va partir ailleurs, et la femme qui est née là-bas dans cette première relation entre les deux, les garçons soient une fille, mais nécessairement chez nous c'est toujours un garçon, il sera toujours surveillé par cette famille des oncles, ok? C'est bien lui qui sera l'héritier de ce mwami-là.
Comment il prend des décisions, le mwami, pour l'intérêt de la communauté? Ça se passe comment?
Le mwami a tout un petit gouverneur qui l'entoure. Il y a les notables, il y a les chefs de groupement, il y a les tongo mwami. Il y a toute une couche là, des petits gouvernements là. Quand le mwami veut prendre une décision, il faut d'abord qu'il puisse consulter d'abord donc ce coéquipier là. Et dès qu'il le consulte, c'est après ça que la décision peut sortir. Mais sans l'aval de cette couche-là que je viens de vous relater, la décision sera nulle ou bien la décision peut tomber caduque.
On va terminer par là. Merci pour votre disponibilité.
Ok, merci bien. Moi aussi, M. Aleyambo, je suis Je dis ceci. Qu'on puisse prier pour nous ici à Beni, la guerre nous fait très mal. Donc okay. J'implore les ancêtres pour qu'ils puissent venir combattre pour nous.
Chez les Koussou, dans le Maniema, au décès du chef, la désignation de son successeur se fait dans la famille, mais les hommes et les femmes membres de la communauté sont associés pour opérer le choix du nouveau chef. Mathieu Ilunga wa Monachebe a interrogé deux notables. Il s'agit de M. Alphonse et de M. Luka.
Koyi, Akikusu, c'est-à-dire c'est le chef, un chef investi, né dans la famille royale. Et ce n'est pas n'importe qui on doit appeler Koyi. Le Koyi est spécifique à quelqu'un qui est né dans une famille royale. Quand on voulait choisir un chef coutumier ou bien un chef du village qui est décédé ou bien il faut le remplacer, il y a deux groupes. Le premier groupe, ce sont les hommes, ils font leur camp pour chercher qui peut sembler à la place, puisque à la place qu'on doit mettre quelqu'un, il faut qu'il mérite à cette place. Alors, les mamas Koussou, elles aussi ont leur part. Elles vont dans leur secret pour connaître qui est-ce qui peut remplacer la personne là qu'on a perdue. Celui-là qui était cher, il fallait qu'il soit remplacé par quelqu'un qu'il faut. Alors, les hommes partaient de leur côté choisir qui est-ce qui peut remplacer et les femmes de leur côté. Alors, ils viennent se retrouver, on donne le nom de qui a été peut-être choisi. On va commencer à critiquer. Celui-là, que vous donnez le nom, il est comme ça.
Bon, après les critiques, maintenant, il est accepté par tout le monde. Mais comment on va l'introniser? Oui, papa, encore le nom.
Papa Luka.
Ah, papa Luka.
Oui. L'intronisation de chef s'est fait comme ça.
Oui.
Après la critique, les critiques de filles, des garçons, des hommes, des conseillers de village, alors on se met en consensus. On dit c'est elle qui devait être chef. Alors le chef, dans le village, il y a une famille, hein, une famille qu'on dit neuvième de... C'est-à-dire, le chef doit avoir 10 points. Alors, cette famille a 9 points. Bon, le 9e, la seconde famille qui va dire au village comme quoi, voilà, je vous donne l'héritier du chef qui est décédé. Alors, on prend ce chef-là, il y a les bahoka, les guerriers. Ils viennent avec des tam-tams. Il y a des lokombe, les locaux, les gardes-corps, alors on intronise officiellement les chefs. Alors, à ce moment-là, il est appelé chef. Chez nous, on dit ceci. Celui qui regarde ce qui chante, ou bien ce qui danse, c'est celui qui est à côté. À l'intronisation des chefs, on invite tout le monde pour dénicher, pour dire, vous devez avoir la conduite de tel. Hein? Il faut donner à tel. Tous les enfants du village sont vos enfants, malgré qu'ils sont les petits pour vous ou bien les grands pour vous, vous êtes les premiers responsables de ce village.
Vous suivez l'émission Identité culturelle qui aborde la question sur l'exercice du pouvoir coutumier. Allons voir chez les Mongos et nous recevons, pour ce faire, Steve, un jeune Mongo. Il nous donne son témoignage.
Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres tribus, mais chez nous, c'est d'abord un homme doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, tu es capable de nourrir ta famille, capable de t'occuper de ta famille avant tout d'abord. Et par après, dès que tu montres tes preuves chez toi à la maison, donc tu sais au moins t'occuper de ta famille correctement, après on te met sur on te fait par un autre test. Donc c'est en dehors de ta famille, qu'est-ce que tu peux faire, donc qu'est-ce que tu peux, comment tu peux défendre les autres.
Et ça se prouve comment?
Bon, normalement dans une communauté tu as certaines personnes qui dépendent de toi, alors tu dois te battre pour eux. Parce que tu sais déjà te battre pour ta famille. Eux ils se disent, mais celui-là, il est capable, donc on peut le confier notre espoir. Il te laisse ce pouvoir-là de te battre pour eux. Bah, ça veut dire, Mobali a solo, donc, Oyaye Bikozoa, ma responsabilité naïe, Kobunda, Netinanda Kuboy, ce qui est Kambozali, Oyo Telemi, Obi, Te, Zaboete. Donc tu te bats pour ta famille, Netipe pour la communauté. Tu sais défendre, donc, Kobunda, Kobunda pour la communauté naïo, que défendre Bango. Voilà.
Alors, est-ce que, juste une petite question de curiosité, dans d'autres cultures, la transmission de pouvoir se passe soit de père en fils, pour ceux qui sont patrilinéaires, pour ceux qui sont matrilinéaires, c'est de l'oncle à son neveu, je crois. En fait, ce sont les enfants de la femme qui acquiert le pouvoir. Est-ce que chez vous, c'est seulement ces critères-là de capacité ou il y a aussi des liens par rapport à une lignée de la famille régnante?
Non, c'est chez nous, nous sommes du régime patriarcat, donc c'est de père en fils. Mais le père de son vivant doit apprendre déjà à son fils comment s'occuper de la famille après son départ. Même déjà avant même son départ, donc quand il vieillit, il voit déjà comment tu pourras t'occuper de tes petits frères ou de la communauté. Donc, il t'apprend déjà, il t'emmène à Zola Kisayo, Nengeni Nia Vandarana Batu, Nengeni Nia Desidara, Nengeni Nia Losarak. Et c'est comme ça que chez nous, ça se fait. Donc, après, déjà, sera l'imbi. À l'imbi, comme dans l'imbi, à Zoko Kalesu Souté, moi, nous avons, nous sommes salopes, papa Tikaki. Et, Batu, nous sommes baby qui nous disent, ouais, c'est moi, na Kingani. Ah, Batu, nous sommes les Likaki. Pas moi, non, yo.
Et avant de poursuivre ce magazine Identité culturelle, voici un extrait de la chanson Pouikelela. C'est un titre de l'artiste Cédric Kikuni, dit Ced Concept.
Calumniana puede que le das.
Merci de rester à l'écoute du magazine Identité culturelle. Après avoir fait un petit tour dans quelques cultures de la RDC, voici quelques autres questions. Aujourd'hui, est-ce que les chefs coutumiers ont le même pouvoir qu'il y a quelques années? Comment sont-ils protégés? Et comment explique-t-on les multiples conflits coutumiers? Retrouvons de nouveau Mwami Godefoy Munongo, le Mwami Msiri. Actuellement, il est le président de l'autorité coutumière en RDC.
L'invité.
Alors, grand chef, vous êtes en même temps le président de l'autorité coutumière en RDC, oui. De manière globale, vous nous avez expliqué comment dans le royaume Yéké on acquiert le pouvoir. Mais de manière globale, est-ce que vous avez une idée de dans les différentes cultures chez nous, est-ce que ça se fait de la même manière?
Non, pas du tout. Il y a trois manières. Une, c'est la manière patriarcale, comme nous. Ça, on retrouve chez les Kassongwanyembo, chez les Kabar et tant d'autres. Une autre manière, c'est la manière matriarcale. Donc, c'est le fils de la sœur qui succède à l'oncle. C'est les matriarcales, comme au Bas-Congo, etc. Et une autre manière, c'est la manière de Mobali, celui qui prend tout, comme en Équateur. Donc, c'est le plus fort, dans tous les sens du mot, qui soit de la lignée ou pas, c'est lui qui prend le pouvoir. Donc, il y a plusieurs manières de prendre le pouvoir. C'est du côté coutumier. Mais maintenant, il y a aussi des ingérences politiciennes qui enveniment les tensions, que ce soit dans le Kassai ou ailleurs. Beaucoup d'ingérences politiques aggravent la situation.
Alors justement, et c'est là qu'on observe aujourd'hui des conflits, comme vous le dites, des conflits coutumiers, et parfois on se pose la question, mais il y a quand même une façon, une procédure, selon la coutume, d'acquérir le pouvoir. Mais pourquoi enregistrer des conflits coutumiers aujourd'hui?
Non, si nous le déplorons, madame, la coutume est locale. Mais pour des intérêts d'être élus après député, sénateur, ministre ou quoi, les politiciens s'ingèrent vraiment dans le rôle des coutumiers. On en destitue, on en fait nommer, on en fait ceci, cela. Et ça crée des tensions. Il y a même des morts d'hommes. On doit faire le tour de la République pour calmer, comme on a fait chez les Kamouina Sapo. J'étais trois fois l'année passée. Vraiment, c'est des tensions, beaucoup d'ingérences politiques que nous déplorons. Mais nous espérons qu'avec l'application de la loi et de la Constitution, progressivement, on va respecter la coutume.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas risque, grand chef, que finalement, s'il y a toute cette ingérence, on est un peu détourné de nos us et coutumes, est-ce qu'il n'y a pas risque finalement de perdre notre tradition?
Vous avez raison 100%. C'est le grand risque que nous connaissons, c'est qu'on cherche à mettre quelqu'un qui peut servir politiquement X ou Y, qui n'a pas été initié, qui ne connaît pas la coutume, qui ne connaît pas les cérémonies. Même quand il invoque les ancêtres ou le prédécesseur, personne ne répond. Parce qu'il y a une lignée. Vous succédez à quelqu'un que vous appelez, lui, il appelle le premier, il appelle jusqu'au fondateur. Alors, quand vous nous mettez un politicien ou un amateur de ville là, qui danse, qui un troubadour, eh bien, vous cassez la coutume. Et ça a des conséquences à tous les niveaux.
Oui. Alors, justement, parce que vous parlez des conséquences, grand chef, est-ce que ça a des conséquences finalement sur la communauté et sur la gestion? Parce que vous dites qu'un chef, il invoque ses ancêtres, etc. Et celui-là qu'on a imposé, il y a comme une cassure. Oui. Et donc, ça a des conséquences. Est-ce qu'on peut dire, parfois j'entends dire que dans certaines communautés, s'il y a certains malheurs, c'est parce qu'on s'est détourné de la coutume?
C'est le cas. Ça arrive très souvent. Et je vous assure, même si nous sommes en 2018, avec costume, cravate et autres, ce pouvoir-là, il est inaliénable. Il est très, très solide. Et quand on le casse, on le perturbe, il y a des conséquences, tant au niveau local que même national, il y a des conséquences.
Est-ce qu'on peut savoir un peu ces conséquences-là?
Avec vos émissions publiques, il faudra venir à Bunker qu'on parle sans caméra et sans micro.
Oui, alors, grand chef, parce que quand on écoute l'histoire, quand on écoute nos parents, nos grands-parents, ils vous disent, lorsqu'il y avait des problèmes, le chef pouvait dire un mot, dans certaines cultures, on sortait les masques pour annoncer qu'il y a un malheur, et puis peut-être que le chef va invoquer, et puis
il faut faire des sacrifices, etc. Et bon, la situation peut se normaliser. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le chef il est plus en ville qu'au village. Est-ce qu'il exerce finalement ce pouvoir-là?
Non. Je vous assure, les vrais chefs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai posé avec mon frère, le grand chef Manda. À Moulonde, il était, débattable là-bas. Il est dans la chefferie. Moi, je suis sénateur pour l'instant, président de l'Alliance. Je bouge beaucoup sur Kine. Mais quand tout ça finira, je vous assure, à Bunké, avec l'université qu'on construit et tout ce que nous faisons, c'est une passion d'être dans mon élément. J'aime beaucoup le sport de golf. On va même construire un petit club de golf où je peux taper dans... Pour vous dire que tout se fera là-bas. Et si on a besoin de nous, on nous appelle. Là, on est présent, mais c'est à la base qu'on vit. Mais surtout pour les grandes cérémonies. Pour éviter les calamités, qui est la pluie, la fertilité, c'est là-bas qu'il faut faire les cérémonies. En ville, la ville, c'est pour vous les citadins, pas pour nous les coutumiers. Nous, on est juste de passage.
Oui. Alors, peut-être avant de terminer, grand chef, on a vu comment on acquiert le pouvoir, comment ça s'organise. Et cette administration, c'est coutumière, c'est depuis... Des siècles et des siècles. Oui, et jusqu'aujourd'hui, on observe encore cela. On a l'impression quand même que sur le plan coutumier, on a une administration assez solide.
Absolument. Et aussi, nous collaborons très bien avec l'État, à travers les gouverneurs de province, les administrateurs. Donc, on a un pied dans la coutume et un pied dans l'administration. Mais notre coutume et la primauté, c'est la coutume. Donc, pour nous, rien ne dépasse la coutume. Et la coutume, comme on dit, elle est locale. Tant dans le mode destination, mode de vie, mode d'enterrement. Tout ce que nous vivons, c'est lié à la coutume. Donc c'est vraiment ancré dans notre culture. Et même vous qui êtes en ville, vous nous dénigrez souvent en disant les villageois, les coutumiers. Mais quand il faut se marier, on dit moulete mbeketi, moulete evi, moulete ceci, cela.
On dit toujours quelle est la coutume de la femme.
Voilà. Même à la commune, est-ce que la coutume a été respectée? Donc la coutume prime. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains. C'est normal.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est acculturé, on perd beaucoup de nos valeurs traditionnelles, etc. Parfois, on s'est dit, est-ce que les chefs continuent à jouer leur rôle pour ramener ce peuple qui s'éloigne de la coutume à ses origines?
Il y a un problème que l'Occident nous a amené. Cette puissance financière qui nous a été dépouillée, nous les coutumiers, par la colonisation et l'État, pour donner à la ville... nous paupérise et fait de nous des éléments secondaires par rapport à ceux qui sont en ville. Nous nous sommes paupérisés, députés, sénateurs, ministres et autres sont plus nantis, entre guillemets. Alors il faudrait maintenant remettre à la base, la constitution elle est très bonne, même la loi, remettre à la base le pouvoir financier, accompagné du pouvoir coutumier, et là vous verrez qu'on va mettre des structures dans nos entités et nos jeunes gens vont revenir et le pays sera dans la sérénité.
Merci beaucoup, grand chef, mais je vais vous demander de passer un mot de salutation dans votre langue.
De rien, maman. Toi, Santa Luine, maman Denise, Ogo Kapi, Biomito Pokela Lelo, ne Kambala Mienda, coutume, ne culture et tout, ino, iki, ne Atobulopobo et tout, tu y as pour les pôles nabo. Toi, témoin, lui, demande la constitution et l'Ibi, Aluine, combien de développement, ne Mienda, ma droit, ma chefferie, ne ma groupement, ne population, ino, et la tout monde, tu y as. Laisse ça quoi chez toi, Santa Luine.
Merci à Mathieu Ilunga Chamboui et Jérémy Sekombi qui étaient au reportage, à la réalisation Julie Ngala, à la coordination Jean-Marc Matouak, Brice Desson, Pierre Diassinois. C'est la fin de ce magazine Identité culturelle. Devant ce micro, c'était Denise Mayomwasi Kisimba. Merci et à la prochaine.
Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.